VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale du vendredi 20 octobre 2023, consacrée en grande partie au discours à la nation prononcé hier soir à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden. En direct de Washington, Idrissa Seludia. S'adressant à la nation américaine peu après son retour d'Israël, le président américain Joe Biden a prononcé hier soir un discours consacré à Israël et à l'Ukraine, envahie par la Russie. Yacouba Ouedraogo vous résume ce discours.
Pour M. Biden, le Hamas palestinien et le président russe Vladimir Poutine veulent tous les deux complètement anéantir une démocratie voisine.
Le Hamas représente une menace différente, mais ils partagent ceci. Ils veulent tout à fait annihiler une démocratie. C'est la destruction de l'État d'Israël. Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Il utilise la violence, ce qui affecte les familles palestiniennes innocentes. En attendant, Poutine a attaqué l'Ukraine. Et il dit que l'Union soviétique a créé l'Ukraine. Et il y a deux semaines, il a dit le monde que les États-Unis et nos alliés, si nous nous retirions, ils le feraient également. Je sais qu'on ne va pas se retirer.
Le président Biden va demander dès ce vendredi au Congrès américain de financer en urgence une aide à Israël et à l'Ukraine, nos partenaires essentiels, a-t-il déclaré, ajoutant, je cite, « C'est un investissement intelligent qui apportera davantage de sécurité aux Américains pour des générations. »
Mais si nous tournons notre dos contre Israël et l'Ukraine, on ne sait pas ce qui va advenir. Voilà pourquoi je vais envoyer demain au Congrès une demande urgente de financement pour appuyer nos partenaires critiques, y compris Israël et l'Ukraine. C'est un investissement intelligent qui va payer des dividendes pendant des générations à venir et qui va maintenir les troupes américaines saines et sauves, qui va maintenir, aider à garder un monde plus sûr, plus sain, plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants.
L'Amérique est un phare pour le monde encore aujourd'hui, a lancé Biden lors de son adresse solennelle à la nation, prévenant des effets néfastes de mesquinerie politicienne sur le rôle des États-Unis à l'étranger. C'était une allusion au chaos qui paralyse toujours le Congrès américain depuis la destitution, début octobre, du speaker ou président de la Chambre basse. En dénonçant à nouveau l'horreur de l'attaque du groupe palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, M. Biden a déclaré « Les familles juives s'inquiètent d'être prises pour cible. » Il a encore rappelé à Israël les lois de la guerre et souligné son soutien à la solution des deux États, israéliens et palestiniens. Il dit avoir le cœur brisé par les pertes de vie le 7 octobre et suite au tir sur l'hôpital de Gaza. Le président américain a annoncé une aide humanitaire de 100 millions de dollars aux Palestiniens et rappelé l'accord qu'il a obtenu auprès d'Israël et du président Abdel Fattah al-Sissi pour l'acheminement de l'aide humanitaire via la frontière entre l'Égypte et Gaza.
Dans un Facebook Live en compagnie de Timothée Donangmaï, nous avons demandé au professeur Souleymane Béchir-Diagne de l'Université Columbia de New York ce qu'il avait retenu du discours de M. Biden.
Il y a deux grandes crises dans lesquelles les États-Unis sont engagés. La crise israélo-palestinienne, la guerre en fait entre Israël et le Hamas et la bande de Gaza. Et d'autre part, l'Ukraine, avec une insistance, ce qui m'a frappé, c'est une insistance très forte sur l'Ukraine, parce que on voyait que dans son discours, il passait de l'un à l'autre, d'Israël à l'Ukraine, presque d'une phrase à l'autre, parce qu'il a le sentiment que l'Ukraine est en train d'être oubliée. Alors, les deux situations ne sont pas tout à fait symétriques. Il faut se souvenir que le soutien à Israël ira probablement de soi pour le Congrès, pour la Chambre basse comme pour le Sénat. En revanche, on sait que les républicains, une partie importante des républicains, est hostile à la continuation de l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine. Et donc, c'était ça également un des enjeux qui explique une insistance particulière du président Biden sur l'Ukraine, en rappelant les atrocités qui ont été commises en Ukraine également. Il ne faut pas que les atrocités auxquelles on assiste en ce moment en Israël, dans la bande de Gaza, nous fassent oublier qu'il y a eu et qu'il y a toujours des atrocités du côté de l'Ukraine.
Il est clair que le président est conscient du fait que l'Ukraine pose problème, l'argent donné à l'Ukraine. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Congrès, particulièrement la Chambre des représentants, est actuellement dans l'impasse quand il s'agit de nommer et de d'élire un président de cette Chambre basse. C'est à cause de l'aide à l'Ukraine. Donc, en essayant de coupler les deux et de mettre l'accent sur l'Ukraine, il essaie de montrer que, en fait, c'est tout aussi crucial parce que l'aide à Israël ne posera pas de problème du tout. Ça n'a jamais posé de problème au niveau des États-Unis. Et que donc, il faut se rendre compte que c'est tout aussi crucial pour l'Ukraine et pour éviter, comme il l'a dit, d'encourager les agresseurs potentiels en disant « mais on a laissé faire en Ukraine ». Ça pourrait tenter aussi la Chine à aller reprendre Taïwan.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle il compte sur une sorte d'effet d'entraînement du package en faisant un seul grand package pour que les sommes qui vont être orientées vers le soutien à Israël emportent avec elles, en quelque sorte, entraînent avec elles une aide à l'Ukraine.
Le professeur Souleyman Béchir Diagne de l'Université Columbia de New York, participant au même Facebook Live, l'ex-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines Herman Cohen, nous a donné cette lecture du discours du président Biden.
Le président Biden a voulu dire à deux grands alliés des États-Unis, c'est-à-dire l'Ukraine et Israël, que nous sommes toujours avec eux dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit que demain, il va envoyer un projet de loi au Congrès qui va donner une grande somme d'argent aux deux alliés, Israël et Ukraine, pour aider ces pays dans la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il fait ce que les Américains voudraient qu'ils fassent, aider ces deux pays qui sont en difficulté à cause du terrorisme.
Il va essayer de lier les deux, en faire un package. Est-ce que c'est une tactique de sa part pour éviter que ceux qui veulent aider Israël et ne veulent pas aider l'Ukraine acceptent le tout?
Oui, vous pouvez dire ça, mais c'est surtout les membres du Parlement dans le Parti républicain sur l'extrême droite qui voudraient laisser tomber l'Ukraine. Ils sont en train de dire « Oh, l'Ukraine, c'est pas important pour nous, on a déjà donné assez à l'Ukraine, c'est loin de chez nous, c'est un problème de, pas de chez nous, mais de la Russie. » Donc, il veut surtout être sûr, il a mis tout ça dans un paquet pour être sûr que certains républicains ne vont pas voter contre l'Ukraine en même temps qu'ils sont en train d'aider Israël.
Pour nos auditeurs qui ne comprennent pas ce qui est en jeu avec l'Ukraine et la Russie, pouvez-vous expliquer quel est le danger ou quel est le risque dont parle le président Biden ici?
Écoutez, l'Ukraine a été agressée par la Russie. Nous ne pouvons pas accepter ça, n'est-ce pas? Et aussi, l'Ukraine est très importante dans le monde de commerce. L'Ukraine envoie beaucoup de céréales en Afrique. Et c'est très important pour l'Afrique de recevoir tout ça, pour la nourriture et pour les repas de tous les jours. Israël est très important pour l'Afrique parce qu'Israël a fait beaucoup de choses dans le domaine d'agriculture, pour l'irrigation et le problème de changement de climat. Israël a fait beaucoup pour l'Afrique et malgré tout ce qui s'est passé récemment avec Hamas, c'est très important pour nous, pour nos intérêts en Afrique, que Israël continue à être très, très important pour les Africains.
L'ex-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen. Voilà pour ce spécial sur le discours à la nation du président américain Joe Biden hier soir à la Maison-Blanche. Merci au professeur Souleyman Béchir Diagne de l'Université Columbia, à l'ex-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines William Cohen, Timothée Domang Maye, Georges Léonard Sagnou et Yacouba Ouédraogo. Dans le reste de l'actualité, l'aide humanitaire tant attendue par les Palestiniens bloqués dans la bande de Gaza devrait commencer à y entrer ce vendredi au 13e jour d'une guerre meurtrière entre Israël et le Hamas qui se poursuit en dépit d'une intense activité diplomatique. Pendant ce temps, l'armée israélienne a continué jeudi de pilonner la bande de Gaza en riposte à l'attaque menée le 7 octobre sur le sol israélien par le mouvement islamiste palestinien Hamas qui contrôle ce territoire d'où des roquettes ont été tirées également sur Israël, selon des journalistes de l'AFP. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé jeudi leurs ressortissants à quitter le Liban sur fond de tensions entre le Hezbollah et Israël. John Linden.
L'ambassade américaine à Beyrouth exhorte les citoyens américains au Liban à planifier leur départ le plus tôt possible, tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. L'ambassade britannique, le ministère allemand des Affaires étrangères, la France et l'Australie ont lancé des appels similaires. Des affrontements militaires répétés ont lieu dans la zone frontalière, a indiqué Berlin dans un communiqué, estimant qu'ils peuvent s'intensifier à tout moment. Hier, le Hezbollah et des factions palestiniennes basées au Liban ont de nouveau échangé des tirs avec l'armée israélienne, la branche armée du Hamas affirmant avoir lancé une salve de 30 roquettes vers le nord d'Israël. Les affrontements à la frontière israélo-libanaise ont fait depuis le 7 octobre une vingtaine de morts côté libanais, dont 13 combattants du Hezbollah, et côté israélien, au moins 3 personnes ont été tuées.
Par ailleurs, les États-Unis ont lancé hier un appel à la vigilance à tous les Américains dans le monde en raison des tensions actuelles liées à la guerre Israël-Hamas. Jacques Aristide.
En raison des tensions accrues en divers endroits du monde, du risque d'attentats terroristes, de manifestations ou d'actions violentes contre des citoyens et des intérêts américains, le département d'État recommande aux citoyens américains à l'étranger de faire preuve d'une prudence accrue, indique un avis diffusé hier sur son site Internet. Le département d'État appelle en particulier les ressortissants américains à rester vigilants dans les lieux touristiques de par le monde et à s'enregistrer auprès des autorités consulaires. L'avis intervient alors que des manifestations se sont produites devant les ambassades des États-Unis dans plusieurs pays depuis le déclenchement des représailles israéliennes sur Gaza à l'attaque sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien le samedi 7 octobre dernier.
Au Niger, les militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum, détenu depuis le 26 juillet, annoncent que le président déchu a tenté de s'évader de son lieu de détention jeudi matin. De Niamey, les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, lu en milieu de nuit à la télévision nationale, cette tentative découlerait d'un plan en 3 phases.
Phase 1, évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2, ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangaré, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3, à partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les infiltrer à Birni Kebbi au Nigeria.
Les principaux auteurs et certains complices ont été arrêtés. Une enquête est ouverte et la situation est sous contrôle, conclut le communiqué lu par le porte-parole du CNSP. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Du sport maintenant avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début aujourd'hui de l'African Football League.
C'est la nouvelle appellation de la Super League africaine. Le match d'ouverture entre Simba SC de la Tanzanie et Al Ahly d'Égypte aura lieu ce soir à 18h local, 15h GMT à Dar es Salaam. Les matchs se poursuivront ce week-end. Demain, l'Atlético Petro de Luanda, 16 fois champion d'Angola, reçoit les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueur des 6 derniers championnats sud-africains. Dimanche, le tout-puissant Mazembe, champion de la RDC, va accueillir l'Espérance de Tunis au stade Benjamin Kapa de Dar es Salaam. Dans le dernier match du week-end, le club nigérian Enyimba FC reçoit les Marocains du Wydad Athletic Club au stade Goodwill Akpabio Douyou. Pour cette première édition de l'African Football League, les 8 clubs s'affrontent dans le cadre d'une formule à élimination directe comprenant un quart de finale, une demi-finale et une finale. Le vainqueur de la compétition va recevoir 4 millions de dollars, le finaliste perdant 2,8 millions de dollars. Les deux demi-finalistes vont empocher chacun 1,7 million de dollars et les quarts de finalistes 900 000 dollars chacun.
Ici en NBA, la dispute entre James Harden et Philadelphie continue.
Oui, le meneur de 34 ans était absent jeudi de l'entraînement pour la deuxième fois consécutive, laissant planer le doute sur sa présence lors de la reprise de la NBA la saison prochaine. Les Sixers ont invoqué des raisons personnelles pour justifier l'absence de James Harden, qui n'a pris part à aucune rencontre de pré-saison. Arrivé en février 2022 en provenance de Brooklyn, Harden est en conflit avec le patron de Philadelphie, Daryl Morey, à propos d'une promesse de transfert qui n'a pas été tenue alors que son contrat expire à la fin de l'exercice 2023-2024. Mécontent, le meneur a traité Morey de menteur et déclaré qu'il ne jouerait plus tant que celui-ci resterait président du club. La saison régulière doit débuter jeudi prochain pour Philly par un déplacement à Milwaukee. Avant cela, Philadelphie accueille Atlanta ce vendredi pour son dernier match de pré-saison.
Merci, Yacouba. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Maintenant, quelques dossiers du jour pour terminer. Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré est candidate à la présidentielle de 2024 après les législatives de 2022. Son retrait de la coalition au pouvoir lui a valu d'être déchu de son mandat de parlementaire. Le Sénégal a eu deux premières ministres et les femmes occupent 44% des sièges au Parlement. Dans un entretien avec Nathalie Barge, Aminata Touré estime qu'il faut appliquer la parité au poste nominatif.
Il nous reste maintenant à parachever cette parité au niveau du gouvernement, au niveau des conseils d'administration. C'est vrai que nous avons la parité 50-50 pour tous les postes électifs, mais c'est loin d'être le cas pour les postes nominatifs. Le gouvernement est complètement en faveur des hommes du point de vue numérique et c'est la prochaine conquête qu'il nous faut avoir, c'est un gouvernement paritaire, comme l'est l'Assemblée nationale, comme le sont nos conseils municipaux. Je pense que le moment est arrivé, il faut que cette parité soit le principe. C'est ça la démocratie aussi, c'est le droit à la représentation équitable et égalitaire.
Quelles sont selon vous les priorités de votre pays au plan économique et social ?
Je considère qu'au 21e siècle, c'est un scandale qu'il y ait encore une masse importante de Sénégalais qui ont du mal à manger à leur faim, qui ont du mal à se soigner, à vivre dans des logements décents, à accéder à l'éducation. Donc la lutte pour l'éradication de la pauvreté, ce sera ma priorité. La question du pouvoir d'achat, les prix se sont envolés et sont hors contrôle. Il va falloir qu'on redéfinisse notre système de subvention et qu'on l'oriente vers les produits alimentaires. Je crois que c'est une première chose. Pour ce qui concerne la santé, je crois qu'il va falloir être très innovatif en mettant en œuvre les stratégies de santé mobile trouver les populations là où elles sont, qu'on ait un programme d'équipement minimal des centres de santé. Et il faut savoir également qu'on sera un pays producteur de gaz et de pétrole, plus de gaz d'ailleurs. Et les revenus, pour l'essentiel, seront orientés vers les programmes d'éradication de la pauvreté. Les femmes et les jeunes seront au cœur de mon programme. J'ai l'ambition de créer une banque des femmes. Elles sont très actives au niveau de l'économie informelle, mais elles n'ont pas accès au financement. La banque également des artisans, c'est un projet, puisque notre économie est à 90% informelle. Et malheureusement, tous ces nombreux artisans talentueux n'ont pas accès au crédit. C'est un tout petit aperçu de ce que je propose aux Sénégalais.
Le Sénégal a eu deux femmes premiers ministres. Il s'agit maintenant d'accéder à la présidence. Quelles sont vos estimations sur les intentions de vote en faveur des femmes ?
Moi, je suis tout à fait convaincu que les Sénégalais sont prêts à élire une femme. Je n'en ai aucun doute. Je pense que les Sénégalais ne sont pas moins sophistiqués que les Libériens qui ont placé une femme à la tête de leur État pendant deux mandats. Je pense qu'il faudra les convaincre. J'ai dirigé la liste à l'élection législative, la liste de Bernard Bokoyakar, que j'ai gagnée. Je ne pense pas que ça a posé un problème que je sois tête de liste étant femme. Je pense que les Sénégalais sont prêts à élire une femme. Je pense qu'ils pourraient même le vouloir pour avoir des approches différentes dans l'exercice du pouvoir. Ce que les Sénégalais attendent des candidats, c'est de voir les profils déjà, leur éthique, leur expérience et les propositions que les candidats feront.
Retrouvez dans son intégralité cet entretien avec Aminata Touré sur voaafrique.com dans Le Monde au féminin qui sera diffusé samedi à 19h05, temps universel.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les experts dans le domaine du numérique et de la communication estiment que les pays africains doivent s'investir davantage pour réduire la fracture numérique qui s'observe sur le continent. Indication faite au cours d'une conférence internationale de 3 jours sur la téléphonie mobile de Kigali, la capitale rwandaise. Jean Damasène Manishimwe.
La connectivité Internet est devenue comme le moteur de la vie aujourd'hui. Cela pousse les gens à effectuer même de longs déplacements à la recherche d'une connexion. Les experts du numérique déplorent le fait qu'une grande partie de la population reste déconnectée, ce qui interpelle les autorités sur le continent africain.
Il faudrait certainement pouvoir avoir des agréments entre les pays et pourquoi pas créer une plateforme, peut-être une application qui permettra de pouvoir faciliter les échanges. Par exemple, je suis au Rwanda, j'aimerais envoyer de l'argent au Congo ou envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire si on peut avoir une certaine plateforme avec des coûts assez raisonnables pour pouvoir faciliter ça.
Il faut peut-être travailler sur le contenu de l'offre des services. Voilà, proposer des services plus attrayants et à des coûts aussi accessibles pour les populations. Parce qu'il faut tenir compte du niveau, économique de nos populations pour faire des offres de services.
Le rapport sur l'économie numérique montre qu'en Afrique subsaharienne, l'écart dans l'usage de l'Internet mobile est de 59%, car plus de 285 millions, soit 25% de la population de cette partie de l'Afrique, est le seul connecté à l'Internet mobile. Pour le président rwandais Paul Kagame, cela interpelle le continent.
We have to address the gaps in the access and connectivity with a sense of urgency.
Nous devons éliminer en urgence les écarts qu'on trouve dans l'accès à la technologie et à la connectivité pour beaucoup d'Africains qui restent hors connexion. Aujourd'hui, l'Afrique a le taux le plus rapide de pénétration mobile au niveau mondial, mais le chemin reste encore long. Nous pouvons avoir plus de résultats rapidement si nous travaillons ensemble.
We can get more results faster. By working together.
Les jeunes représentent une grande partie de la population africaine. Pour l'Union africaine, il faut travailler davantage à l'autonomisation des jeunes, car ils doivent contribuer au développement de l'Afrique.
Tu peux avoir des connaissances, mais il faut savoir les appliquer pour la création de l'emploi. Et le message que nous donnons aux jeunes d'aujourd'hui est d'être créateurs d'emploi au lieu d'être demandeurs d'emploi.
Les experts estiment que les Africains doivent embrasser la transformation numérique, alors que beaucoup sur le continent restent déconnectés. Jean-Thomas Sénémane Chimré pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, le gouvernement veut investir près de 1 800 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la région de l'extrême nord. Cette partie du pays, située près de la frontière avec le Nigeria, a subi d'importants dégâts suite aux incursions des combattants de Boko Haram, des conflits intercommunautaires, des inondations et des conséquences du changement climatique. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord a été présenté aux populations et autorités administratives. Les membres de la société civile ont été également conviés à l'occasion.
Boko Haram nous a fait rentrer en arrière. Donc si le chef de l'État a décidé de reconstruire l'extrême nord, ça c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est que ceux-là qu'on a confié ces tâches-là le fassent d'une bonne manière.
C'est une satisfaction aujourd'hui de savoir que non seulement le projet va être mis en œuvre dans la région, mais que l'approche sera une approche basée sur les besoins effectifs des populations.
Nous, de la société civile, nous accueillons avec satisfaction ce programme, sachant que nous avons notre rôle à jouer.
Tous les 6 départements de la région sont concernés par les projets de reconstruction. Chetima Amidou, maire de la commune de Moura.
Il s'agit globalement, n'est-ce pas, de la reconstruction des infrastructures sociales de base. Il s'agit de reconstruire, n'est-ce pas, le tissu économique à travers la réhabilitation des routes économiques et des routes agricoles. Il s'agit de reconstruire les écoles. Il s'agit de reconstruire, n'est-ce pas, les réseaux électriques. Il s'agit également de reconstruire toutes les infrastructures hydrauliques.
Le démarrage des travaux est imminent. Aladi Magra Massoua, coordonnateur national du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord.
Certains travaux relatifs aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures d'adduction d'eau, ainsi que des infrastructures scolaires, ainsi que leur équipement, vont connaître leur démarrage puisque les contrats sont en cours d'être signés.
Des mesures sécuritaires ont été prises pour faire face à l'éventuelle menace de Boko Haram, d'après le coordinateur du programme spécial, Aladi Magra Massoua.
Nous allons signer une convention avec le ministère de la Défense pour accompagner tous les prestataires et même les responsables du programme qui vont se déployer sur le terrain. Et ce qui veut dire que dans même le programme, l'équipe du programme, il y aura des responsables chargés de la sécurité. C'est le lieu aussi de rappeler que l'ombre existe, mais depuis un certain temps, il n'y a pas d'attaque particulière de Boko Haram. Donc, la sérénité est là. Et des localités plus proches de la frontière avec le Nigeria, dans le Mayo Chanaga, Mayo Sava et Logone Shari, sont en pleine activité. Vous prenez Fotokol, Banki, Kolofata, toutes ces localités-là sont actuellement en pleine activité.
À terme, le programme entend reconstruire toutes les infrastructures détruites par Boko Haram, achever les chantiers abandonnés, développer les infrastructures pour assurer la relance des activités socio-économiques. Ce sera donc le début de longs, difficiles et parfois périlleux travaux d'Hercule. Et pour arriver à bout, il faudra aussi surveiller de près l'utilisation réelle du beau pactole de 1 800 milliards de francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Costa, Costa, Marelle.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.